Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Nous sommes le mercredi 9 juillet 2025 et nous sommes en direct de 19h à 20h dans l'émission de La Forêt des Possibles. Une fois n'est pas coutume, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Les arbres qui brûlent aussi, on en a beaucoup parlé hier. Comment ne pas parfois avoir peur face au changement climatique avec ce feu qui est venu grignoter la garrigue marseillaise jusqu'au nord de la ville. Et donc, dans La Forêt des Possibles, l'enjeu, c'est de donner la parole aux acteurs et aux actrices qui font les transitions écologiques du territoire pour que nous puissions continuer à vivre dignement en 2030, en 2040, en 2050 et puis au-delà. Qu'est-ce que La Forêt des Possibles ? Eh bien, La Forêt des Possibles, c'est une grande invitation à ce que chacun, chacune trouve sa juste place. Sa juste place dans une société qui remet la nature au cœur de la ville et qui permet de créer un grand mycélium sur lequel nous pouvons toutes et tous agir comme dans un grand écosystème. Sa juste place, c'est aussi une manière de dépasser le triangle de l'inaction. Je ne sais pas si vous connaissez ce fameux triangle, mais c'est que finalement les citoyens, les entreprises et les collectivités publiques se renvoient souvent la balle pour ne pas être à la hauteur des enjeux du changement climatique. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une action qui est simultanée, à la fois nous, citoyens, citoyennes, les porteurs de projets et puis ensuite les collectivités. Et donc ce soir, nous recevons Mickaël. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir Marin.
Tu es venu, Mickaël, nous présenter tes activités de pépiniériste avec Pépinière de Demain et aussi une association qui s'appelle VOOM. Et donc, on va avoir l'occasion tout au long de cette émission de pouvoir présenter ton projet, présenter ton parcours et puis présenter la vision que tu portes pour la ville de Marseille qui nous est chère avec cette marque signature de La Forêt des Possibles, du moi au nous et du nous au tout. Finalement, notre enjeu, c'est que vous qui nous écoutez, vous vous disiez que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, que peut-être que vous avez pu avoir peur hier en voyant cet immense incendie et se dire mais qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que c'est un peu l'apocalypse en voyant cette fumée toute orangée au-dessus de nos têtes et que bah, nous avons des choses à faire. Et donc Mickaël, ce que je vais te proposer, c'est déjà de présenter ton parcours, de présenter qui tu es et puis qu'est-ce qui t'a amené à être pépiniériste, qu'est-ce qui s'est passé avant ?
Moi j'ai un parcours plutôt atypique. J'ai fréquenté beaucoup le milieu de la nuit pendant de nombreuses années. J'ai été joueur de poker, j'ai été croupier. J'ai vraiment exploré l'obscur jusqu'à une première bascule. Où mon meilleur ami m'a proposé de commercialiser des extracteurs de jus. Et c'est là qu'a été ma rencontre avec les plantes. J'ai commencé donc à faire des jus, j'ai commencé à m'initier au goût, à l'énergie des plantes. Et donc j'ai commencé comme beaucoup de gens par un petit potager, puis j'ai introduit des nouvelles plantes, puis de nouvelles plantes, des plantes rares, des plantes insolites, et je me suis rendu compte que j'aimais faire pousser les plantes.
Merci. Passer de l'ombre à la lumière. Pour discuter de ces sujets, je vais présenter les autres personnes qui font cette émission, avec Elissa qui est en studio avec moi.
Bonsoir.
Bonsoir Elissa. Et Claire et Mathieu qui sont en régie et qui sont avec nous pour enregistrer cette émission. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Marin, bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir, ravi d'être parmi vous ce soir.
Eh bien, que la conversation commence. Donc, tu nous présentais ton parcours en disant que tu avais eu cette vie de la nuit, cette vie parfois un peu de l'ombre, et que finalement, ce qui t'avait beaucoup touché, c'était la vitalité des plantes. Et alors, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que, quand tu parles de la question de l'extraction de jus, est-ce que c'est la partie d'extraction dès le départ qui t'a marqué, ou est-ce que finalement, c'était cette vitalité que tu voyais partout ? Là, tu nous présentais une plante qui est en studio avec nous, avec des centaines de graines qui peuvent exister sur un seul plant. Se dire, c'est fou, parce qu'avec un plant, ensuite, ça peut pousser un peu partout.
Tout à fait, ouais. Donc, cette plante-là dont tu viens de parler, c'est une plante qui me plaît beaucoup, qui a une floraison magnifique, dont les feuilles se consomment comme une mâche, un pourpier, vraiment de façon en petite salade, et dont les racines, elles, se consomment comme du ginseng. Donc on a quand même un bel exemple, en fait, de ces plantes, de cette force de la plante à nous proposer du beau et du bon à la fois. Et c'est tout ce qui m'attire, en fait, dans le monde végétal, c'est de pouvoir amener à la fois cette valeur ornementale et à la fois cette valeur comestible, voire énergisante, pour certaines des plantes que je multiplie.
C'est toi qui l'as amené, cette plante, Mika ?
Ouais.
Ah d'accord, je me disais, c'est un hasard incroyable. Juste aujourd'hui, une plante apparaît dans le studio. C'est quoi son petit nom ?
Alors, elle a plein de petits noms. Moi, j'aime bien le Turenchen. On l'appelle le ginseng de Java, on l'appelle le ginseng de terre, voilà, elle a plein de petits noms. Après, elle n'a qu'un seul nom botanique, Talinum paniculatum.
Toujours les plus romanesques, finalement.
Voilà. Et c'est vrai que c'est un coup de cœur, c'est un de mes coups de cœur de l'année, quoi.
Et alors, ce coup de cœur, tu me disais quand on préparait l'émission que tu avais fait une reconversion il y a 2 ans et qu'ensuite tu avais eu une espèce de passion. Que c'était un de tes amis qui t'avait fait découvrir l'extraction de jus et qu'après t'étais rentré dans l'expérience, tu t'étais renseigné sur les enjeux de permaculture, sur les forêts, Miyawaki aussi.
Ouais.
Cette passion, elle s'est nourrie comment ?
Ben, je crois qu'elle s'est nourrie d'elle-même, en fait. Je suis quelqu'un d'assez curieux de nature, et de découvrir cet univers de la flore et finalement de la faune aussi, ben, c'est un univers sans fin. Une plante en amène une autre, parce qu'il y a des plantes qu'on dit compagnes, il y a des symbioses qui se mettent en place entre plusieurs plantes, et qui se mettent en symbiose aussi avec plusieurs insectes, des oiseaux qui viennent manger une graine, par leur système digestif, permettent qu'ensuite elle germe, vraiment, parce que c'est vraiment un tout, quoi. Et du coup, tu ne peux qu'aller plus loin, en fait.
Et alors, est-ce que c'était un univers qui t'était familier avant ou pas ? Parce que ce qui peut être intéressant, c'est de se dire à Marseille, on est quand même dans une ville, même s'il y a un rapport nature-culture avec plein de jardins, notamment le tien, Alissa, que j'ai découvert tout à l'heure, qui peuvent être en cœur de ville. Il y a un certain nombre d'endroits où on a littéralement coupé, rasé des bastides entières pour faire grandir des cités à la place. Et il y a certaines personnes qui sont parfois coupées de ce lien qui peut exister au vivant, à la nature. Est-ce que toi, tu l'as eu depuis toujours, ou est-ce que vraiment ça a été une espèce de découverte qui t'est tombée dessus ?
Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un jardin quand j'étais petit,
ouais,
dans lequel je n'allais jamais parce qu'il y avait des abeilles. Donc j'avais très peur de ces insectes, très peur de l'extérieur. Et donc je n'ai pas eu vraiment ce background végétal du tout. Je suis pas issu d'une famille d'agriculteurs, voilà, quoi. Bon, une plante, c'était joli, et encore. Mmh. La révélation, elle s'est faite avec les années, avec la rencontre avec les plantes, et voilà. Et comme je te dis, après, j'ai creusé, j'ai vu beaucoup de gens qui proposaient des plantes qui avaient l'air folles. Là, je pense notamment, par exemple, à une plante d'arachide, la plante qui fait les cacahuètes. C'est une plante très folle. Elle fait une floraison normale, des petites fleurs jaunes, tranquilles. Une fois que les fleurs sont sorties, elles plongent dans la terre. Et là, elles font des cacahuètes. Quoi, je trouve ça dingue. Après, pour rebondir aussi sur ce que tu disais concernant ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un bout de terre, de pouvoir avoir un bout de jardin. À Marseille, on a quand même la chance aussi d'avoir beaucoup, plusieurs en tout cas, assos qui proposent une alternative en faisant des jardins partagés, des vergers partagés. Tu as notamment le talus qui œuvre pas mal pour ça. Tu as des lieux où tu peux voir le roi d'Espagne, tu as Colineo. Moi-même, comme tu disais, je fais partie de Voom, qui anime la Bastide à fruits à la Fourragère. Donc c'est un verger expérimental et participatif. Donc tout le monde est amené à pouvoir toucher de la plante, toucher de la terre, s'ils ont envie. Voilà.
On parlera de vous juste après, mais là, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est vraiment le rapport à l'expérience. Je pense qu'on peut, on peut peut-être toutes et tous partager, pour ceux qui le veulent, notre rapport à la terre. Moi, j'ai toujours, par exemple, été fasciné par le fait de faire pousser des arbres au sens propre. J'en ai fait pousser un pendant le confinement et maintenant il fait 3 mètres dans le jardin de mes parents. Et l'expérience de la permaculture aussi, toujours pendant le confinement. J'ai trouvé que c'était déjà intellectuellement extrêmement stimulant parce que c'est des jeux de combinaisons. Essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir agencer des plantes les unes avec les autres en fonction des besoins en eau, en nutriments, est-ce qu'on a besoin d'être au soleil, pas au soleil, et puis de voir ensuite comment on va pouvoir articuler tout ça sur une parcelle, et donc aussi comprendre quelle est sa parcelle, quels sont les différents endroits dans lesquels on peut mettre ça. Puis après, de les voir pousser, donc on les plante, et puis on voit les semis qui poussent, et puis progressent. Ensuite ça devient énorme. C'est très vitalisant comme expérience. Et je trouve que ça rend aussi, ça met de l'humilité, parce que même quand c'est extrêmement productif, à la fin on finit avec, dans le jardin de mes parents, on a dû avoir 20 courgettes, et après des courgettes, des carottes, des pommes de terre, des haricots, enfin plusieurs variétés, mais à la fin ça fait 3 repas. T'as les 3-4 pour 6 personnes, c'est déjà ça. Mais ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'il faut comme espace pour pouvoir produire de quoi manger tous les jours. Et sans l'expérience, je suis pas sûr qu'on se rende vraiment compte de ce que ça nécessite. Donc voilà, je sais pas si comment toi, Elissa, tu as fait la rencontre des plantes.
C'est rigolo que tu mentionnes les surfaces qui sont nécessaires pour produire de la nourriture, notamment des plantes maraîchères avec lesquelles on va pouvoir faire nos bons repas. Parce qu'il s'avère que j'ai déjà rencontré Mika, nous nous sommes croisés. On se voyait tous les jours à Auriol pendant notre formation de brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et c'est vrai qu'on a touché du doigt à ce moment. Alors, comme Mickaël disait, c'était un moment de sa vie où j'imagine qu'il commençait à voir vraiment l'essence et l'intérêt qu'il avait spécifiquement pour cette science, l'agronomie et puis la culture en règle générale. Mais ça a été vraiment hyper instructif, justement, d'aborder, si tu veux, la nourriture de manière très théorique, avec selon l'espèce, selon l'essence, l'espacement qu'il faut entre les plants, le nombre de gouttes d'eau dont elles vont avoir besoin chacune, l'ensoleillement, les compagnies, les plantes qui peuvent être en synergie avec les unes les autres ou complètement pas, la qualité du sol que chacune recherche, c'est infini. Comme tu le disais, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. On ne peut pas cantonner une plante dans un petit cadre et se dire qu'on l'a comprise comme
exactement.
Ça. Et oui, cette approche de la permaculture aussi, absolument fascinant, parce qu'au-delà de la culture végétale, en fait, ça touche le vivant, quoi. C'est juste comment laisser le vivant nous montrer son efficience. Parce que juste quand on met les choses dans les bonnes conditions, ou quand on, peut-être d'ailleurs, on accepte juste de les regarder, il y a tous les indices qui s'offrent à nous. Et si on a cette humilité, justement, de l'observation, de la patience, de l'attente, du respect de ce qui est, on peut apprendre énormément. Et du coup, j'imagine que c'est le genre d'expérience que tu fais aussi en pépinière, à observer ce qui pousse.
Ouais. Tu parlais de laisser le vivant. En fait, c'est aussi une méthode d'organisation. Et moi qui ai fait du droit au départ, ça m'a vachement fasciné de me dire finalement on peut organiser, mais en laissant les plantes faire une partie du travail sans tout mettre absolument dans des cartons, des carrés et qui sont très rigidifiants. Et donc tu parlais d'une approche maraîchère, mais en fait avant l'approche maraîchère, il y a l'approche des pépiniers et pépiniéristes. Peut-être qu'on peut donner quelques mots de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'un pépiniériste et qu'est-ce que c'est qu'un maraîcher, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est, et comment ça se passe dans l'ordre chronologique, parce que c'est d'abord le pépiniériste puis ensuite c'est le maraîcher.
Alors,
ou pas,
presque,
ou pas. Voilà,
presque.
Je vous laisse,
C'est d'abord le semencier, celui qui amène la graine. Après tu as le pépiniériste qui sème la graine et qui crée un bébé plant, et après le maraîcher vient prendre ce bébé plant et l'intègre dans son système. Où lui, il a pris en compte tout ce qu'a dit Elissa précédemment, la nature du sol, la bouffe, l'eau, afin de donner à la plante le maximum de chances de devenir abondante. Et finir au bout du bout dans l'assiette de nos concitoyens.
Et alors, une de tes journées type du mois de juillet, ça ressemble à quoi ?
Alors, comme je te l'ai dit l'autre jour, là, en ce moment, on a eu une petite incursion de sangliers. Donc, ma première étape quand j'arrive sur le terrain, c'est de vérifier si j'ai pas eu de dégâts. Au-delà de ça, après, voilà, donc je fais un petit tour malgré tout, toujours une observation. Le fait de faire de la production à plus grande échelle que dans un jardin, ça sous-entend d'être très attentif aux premiers signes d'attaque, par exemple, de ravageurs ou d'attaque de champignons. Et donc, tu es obligé de faire de l'observation permanente. Mmh. Voilà, donc moi je fais mon petit tour de mes plantes, très rapide. Et après, je commence les tâches du jour. Généralement, alors, comme les plantes, je ne suis pas cloisonné. Je vais un peu au fil de ce qui m'a attiré au niveau du regard. Quoi. Quelle est la plante qui avait un besoin à ce moment-là, et j'essaie d'y répondre. Voilà, donc ça peut être aussi bien du rempotage, c'est-à-dire passer une plante dans un pot de base à un pot supérieur. Ça peut être de la taille, une petite coupe de cheveux. Ça peut être un besoin d'irrigation. Ça peut être voilà, ça c'est la phase observatoire qui entraîne une conséquence. Ou alors il y a la phase vraiment multiplication de plantes, à savoir le semis, à savoir la bouture, la division. On peut multiplier les plantes de plein de façons diverses.
Mmh. J'imagine que en fonction des saisons aussi, tes activités sont très différentes. Ou pas ?
Oui, tout à fait. Oui. Là, en été, on arrive à un moment où les plantes commencent à se calmer, tout comme en hiver. Une plante a un minimum et un maximum, au-delà desquels elle végète. Et après, il y a des périodes de rush, le printemps essentiellement et l'automne.
Alors, je me souviens d'une question qu'on avait souvent abordée pendant notre formation, parce qu'elle avait une spécificité, c'est que c'était du maraîchage biologique qu'on étudiait et qu'on essayait d'appliquer. Et toi, Mika, tu te retrouvais souvent face à ce néant de... Bah, en fait, la pépinière en bio, c'est super compliqué à gérer parce qu'il y a ces histoires de substrat, parce que ça n'existe pas. En fait, il n'y avait pas de label applicable au bio. Et alors, ma question vient en fait, je te vois froncer les sourcils, du coup, j'ai hâte que tu m'expliques tout ça. Ma question vient de ton explication. Tu viens, tu observes, tu vois s'il y a eu des attaques, notamment de ravageurs. Peut-être tu vas voir qui des pucerons, qui des cochenilles, qui je ne sais quoi sur des feuilles. Comment tu réagis à ce moment-là ?
Alors pour l'instant, j'ai de la chance. Je pense que le fait d'avoir une telle diversité en fait dans ce que je produis, là actuellement, je dois avoir à peu près 250-300 variétés de plantes. On parlait tout à l'heure de compagnonnage. Quand on parle de compagnonnage, c'est aussi qu'il y a certaines plantes qui peuvent être répulsives, d'autres attractives, et donc qui créent un écosystème plutôt viable pour tout le monde en fait. T'as des plantes qui peuvent être sensibles, mais entourées de protectrices, elles sont moins attaquées. Au final, j'ai pas tant de grosses luttes. Là, j'ai eu une attaque de cicadelle. C'est un petit insecte qui pique les feuilles. Il existe un traitement en bio. Donc, j'ai appliqué ça. C'est à base de phéromones et de glu. Voilà. Donc, on piège les méchants.
À t'écouter, vraiment, on voit tout l'intérêt de fonctionner en écosystème et par sorte de combinaison de coopération. Et ces modèles que tu appliques pour les plantes, tu le fais aussi avec tes partenaires de travail, d'une certaine manière, puisque tu n'es pas tout seul. Je ne sais même pas si on a précisé où est-ce que tu travaillais, je ne pense pas encore.
Pardon.
C'est à la Bételine, c'est ça, à Château-Gombert, et vous êtes 9.
Donc c'est un nouveau lieu agroécologique à Marseille. On est 9 agriculteurs de domaines différents et complémentaires. On a 2 maraîchers, on va avoir de la vigne, on va avoir un apiculteur, une chevrière. On a des fleurs coupées pour les bouquets de fleuristes, sans pesticides. On a de l'arboriculture et il y aura même en sus une ferme pédagogique pour là encore éveiller d'autres curiosités et donner d'autres réponses.
Mmh, et alors tu peux un peu nous raconter l'histoire de ce lieu, parce que finalement on pourrait peut-être se dire que ça n'existe pas, des agriculteurs urbains, agriculteurs, agricultrices. Tu me disais que vous étiez maximum 200, il me semble, dans la ville.
Ah non, beaucoup moins.
Au moins.
On est, je pense qu'on est même pas une trentaine d'exploitations sur Marseille.
Mais en termes de personnes,
le double max.
Double, ça fait deux par structure.
Ouais, moyenne, 60-70 personnes. Allez, 100 personnes max.
100 personnes max.
Qui œuvrent pour essayer de faire des végétaux sains en préservant nos sols. Et qui œuvre pour le bien commun, quoi. Dans notre angle, en tout cas.
Alors, il me semble que toi, tu as commencé ton projet à une petite échelle avant d'accéder à ce terrain où vous êtes 9 personnes avec des activités diverses. Tu veux nous raconter un peu ton changement d'échelle et ce départ du jardin dont tu parlais tout à l'heure, si je ne me trompe pas?
Donc, j'ai commencé dans un jardin familial. J'avais 300 mètres carrés dédiés. Donc j'ai fait ma reconversion il y a plus de 2 ans. Dans la foulée, j'ai créé mon entreprise. J'ai donc commencé à multiplier le maximum de plantes. Et donc pendant 1 an, j'ai fait ça de chez moi. Donc j'ai atteint finalement les limites de chez moi. Donc 300 mètres carrés, c'est beaucoup. Et finalement, c'est pas beaucoup quand tu veux être un pro. Et là, j'ai transité sur 6000 mètres carrés. Donc au sein de la Bételine qui est 11 hectares agricoles. Et là donc les dimensions ont vraiment changé, c'est 1x20, donc j'ai 20 fois plus de serres, d'espace de serres en tout cas, et 20 fois plus de terre sur laquelle travailler aussi. Donc beaucoup beaucoup de boulot pour la transition.
Et alors tu disais que c'est à Château-Gombert, et comment se passent les relations de voisinage que tu as à Château-Gombert, que ce soit avec les citoyens, citoyennes, et avec peut-être les... Il y a une grosse université, il y a un restaurant solaire, le Présage, qu'on a déjà reçu à ce micro. Voilà, comment ça se passe au quotidien?
Alors, déjà vite fait, avec le collectif, parce qu'on est on est assez soudés avec les autres agriculteurs, donc on est vraiment unis, on a un peu la même idéologie, la même philosophie, donc on est très raccord et on s'intègre relativement, même très 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 bien en fait, au cœur de Château-Gombert. C'est un des villages les plus terroirs, je pense, de Marseille. Vraiment les gens sont ravis. J'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent. Toutes les semaines, quand ils viennent, parce qu'on a déjà une vente à la ferme hebdomadaire. Donc on voit vraiment un public régulier, récurrent, qui apprécie de voir des agriculteurs urbains, des agriculteurs tout court, quoi. Mmh. À 10 mètres de leur porte, quoi. Donc leur proposant des produits sains, non, c'est chouette, je pense, pour eux comme pour nous.
Et alors c'est intéressant du coup cette opportunité finalement que vous avez eue en tant que collectif de vous installer à l'intérieur de la ville de Marseille sur un territoire qui est historiquement en fait la terre maraîchère de la ville, où il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi, à peine un siècle, les gens faisaient déjà ça s'est un petit peu perdu pendant un moment où on a voulu réurbaniser, construire des choses, accueillir plus de monde. On y revient. C'est dans quel contexte que... Est-ce que c'est en tant que collectif que vous avez accédé à ce terrain, ou est-ce que vous vous êtes positionné séparément et puis il s'avère que vous vous entendez super bien? Est-ce qu'il y a une intention commune, quoi, dans ce projet?
Le terrain a été racheté par un privé qui a délégué le pilotage à une asso qui s'appelle Culture Éco. Et cet asso a demandé à l'ADR de faire un arbitrage parmi une trentaine de porteurs de projets, afin de correspondre, je pense, à une certaine unité.
Tu peux nous rappeler l'ADR ?
Je me rappelle plus de la définition de l'acronyme. C'est en gros un organe associatif qui aide à l'installation des agriculteurs. Il y en a dans toutes les régions de France, et donc la nôtre se retrouve dans les mêmes locaux que la Cité de l'Agriculture. Donc voilà, on est sur une équipe de gens assez investis sur une agriculture bio aussi, saine, et souvent de petits porteurs de projets. On n'est pas sur une grosse entreprise et de gros lobbies, on est vraiment sur du démarrage de 1, 2, 3 paysans simultanément sur une même exploite. Donc on ne se connaissait pas et on a appris à se connaître tous ensemble et c'est cool.
Est-ce qu'il y a des synergies entre vous déjà sur ce que vous pouvez vous apporter les uns les autres ? Je pense notamment aux engrais qu'une chevrière pourrait fournir à des maraîchers ou des choses comme ça, des échanges de bons procédés. Est-ce que vous arrivez à mailler un peu comme ça entre vous ?
Alors, pour l'instant, le crottin de chèvre, il n'est pas encore inclus dans nos échanges, mais par contre, voilà, il y a beaucoup d'entraide, que ce soit de l'outillage, de l'entraide humaine, de l'entraide de compétences. Voilà, par exemple, on a Terre de Mars qui a une expérience du maraîchage qui est bien plus élevée que la nôtre, quoi. Donc, ils ont quand même une technicité qui est un bonus pour moi déjà. J'aime bien pouvoir discuter avec eux de certains aspects des plantes. On a donc ce partage de temps, d'entraide. La semaine dernière, je suis allé les aider à faire les poireaux, par exemple. Et on projette éventuellement des collabs un peu expérimentales pour essayer d'améliorer nos systèmes productifs. Voilà, donc ça peut amener à beaucoup de bonnes choses, j'espère.
Tu as parlé de Terre de Mars, tu as aussi parlé de la Cité de l'Agriculture.
Ouais.
Est-ce que tu peux décrire ce qu'est rapidement la Cité de l'Agriculture et en quoi ça t'est utile de travailler avec cette structure qu'on a aussi reçue à la radio et ça, nous, on aime aussi montrer ce mycorhize qui existe entre porteurs de projets.
Je pense que mycorhize, c'est le bon mot pour la Cité de l'Agriculture. Du moins de mon ressenti, hein, c'est vraiment ce qui lie tous les agriculteurs à Marseille. Que ce soit là encore pour de l'entraide, tu vois, par exemple, une nouvelle demande de subvention qui vient à tomber, la Cité de l'Agri fait partager l'info. Un gars qui a besoin d'aide pour faire une tâche en particulier, c'est véhiculé aussi par la Cité de l'Agri. Là, récemment, on a une grosse problématique, c'est le prix de l'eau agricole. On sait tous qu'on a tous été augmentés par rapport à l'agence de l'eau. La hausse qui a impacté le particulier était de l'ordre de 15%. La hausse qui a impacté les agriculteurs sur l'eau agricole est de l'ordre de 500%.
500%?
Ouais.
Ok, parce qu'il y a deux ans, quand on parlait de ce facteur eau, c'est vrai que c'était vraiment décrit comme pas cher. Mmh. Aujourd'hui,
ça fait x5.
C'est une grosse ligne. Quoi, dans
le pas cher, il a fait x5. Okay, ouais. Moi, dans mes projections, ça équivaut à l'heure actuelle à un peu plus d'un mois de salaire.
Je propose qu'on garde la question de l'eau parce que c'était vraiment la partie du
désolé.
Non, c'est pas, il n'y a aucun désolé, mais ça va être un gros sujet parce qu'en plus, c'est malheureusement au cœur de l'actualité, cette question de l'eau et des sols particulièrement secs. Et on arrive déjà à la période de la respiration musicale. Donc on parlera de l'eau pour celles et ceux qui sont impatients de parler de cette question après la respiration musicale. Mais en attendant, Michael, j'aimerais que tu nous présentes la musique que tu as décidé de nous faire écouter ce soir.
Alors on m'a demandé une petite pause musicale, donc hier soir j'ai cherché dans tous les artistes que j'aime, et là j'aime beaucoup Tricky. Donc je suis allé piocher celle qui me donnait le plus de résonance en ce moment et j'ai flashé sur celle-là.
Eh bien, on se retrouve juste après cette pause musicale dans l'émission de La Forêt des Possibles avec Michael qui nous présente ses activités de pépiniériste. À tout de suite.
Stole from your pockets and yes I lied. What did you want me to do? I don't know my name and I don't care for friends. How can I take care of you? The stars left, the morning came. You know I'm just a good time girl. Leaving you lonely, I don't care at all. No, I can't be good for you. I'll
heart will come weary. You won't get to know me, but what you receive will be pure. I give you small doses cause my heart's been wasted and I can't belong anymore. It's closing time and aftermath, this heartache's been coming on slow. Warm and he's curling, our lips are enfolding, cold on my chest as he folds. By judgments and wisdom, come to my lap, be a man. I'm off the breast and I'm learning to hunt Reggiani, yeah, he'd understand. Be bold, but don't fight me, and don't try to move me now. No need for romance to wake up the dormant, the seasons are coming around. And yes, I lied. What did you want me to do? I don't know my name and I don't care for friends. How can I take care of you? The stars left, the morning came. You know I'm just a good time girl. Leaving you lonely, I don't care at all. No, I can't be good for you. I'll become wary, you won't get to know me. But what you receive will be pure. I give you small doses cause my heart's been wasted and I can't belong anymore. It's closing time and aftermath, this heartache's been coming on slow. Warm and he's curling, our lips are enfolding, cold on my chest as he folds.
Bienvenue à toutes et tous, rebonjour sur Radio Galère au 88.4. On est avec Mickaël et le projet Pépinière de demain. On a déjà beaucoup parlé de plantes, de vie, de culture. Et j'ai une dernière question pour Mickaël, enfin j'ai une question de plus pour Mickaël avant qu'on se lance dans l'emblématique partie du tout, où on va un petit peu élargir, dézoomer et se poser des questions plus globales. On parle depuis une demi-heure déjà avec Mickaël de son projet de pépinière qu'il a lancé il y a maintenant à peu près 2 ans. Il s'est installé donc dans un projet collectif sur un terrain de 11 hectares au total avec plusieurs exploitants et exploitantes. Mickaël, tu fais des plants, tu fabriques des bébés plantes finalement, et c'est quoi ta spécialité? Est-ce que tu produis un peu de tout? Est-ce que tu as des préférences? Qu'est-ce que tu aimes vendre et proposer?
Alors moi, mon offre, elle est basée sur la plante comestible. Voilà. Tout ce que je présente, tout ce que je produis, tout a un seul fil conducteur, c'est la comestibilité. Ça peut partir d'une plante, voilà, une plante potagère. Donc, celui qui veut s'acheter son plant de tomate qui est allant, ou dans une jardinerie pour la plupart, ou qui essaie de le semer lui-même, a des plantes beaucoup plus rares, beaucoup plus insolites, des plantes oubliées, des légumes anciens. Là, la plante comme la plante que je vous ai amenée là, c'est une plante qui vient aussi de l'autre bout du monde. L'avantage des plantes, c'est qu'on réfléchit en climat. Et on réfléchit pas forcément, quoi. Moi je réfléchis pas forcément en variété endémique, en variété originelle du lieu. Je fais beaucoup de plantes méditerranéennes, mais j'aime bien aller sur le climat méditerranéen que l'on peut retrouver donc là aussi en Asie, en Californie, et c'est là où on peut retrouver des pépites que j'aime ramener et que j'aime collectionner.
Et tu les trouves où?
Il y a plein de vecteurs de trouvailles. C'est où je les chine vraiment, parce que je les ai lus dans un bouquin, où j'ai rencontré un pépiniériste qui me parle d'une plante de fou, ou un client qui me dit « Vous connaissez pas machin chouette ?» Ah ben non, ben donc je vais chercher. Et on en revient à ce truc-là de la curiosité, et c'est toujours alimenté. Et donc, voilà, et après, voilà, il y a toujours un truc qui rebondit, qui rebondit, qui rebondit.
Et donc, tu vends à des particuliers. Ta clientèle se compose de personnes qui sont intéressées, quoi, des passionnés, pas forcément des professionnels qui vont vouloir acheter en gros et faire leur culture avec.
C'est ça. Bah, essentiellement, pour l'instant, ma clientèle, c'est du particulier. Bah, alors, du particulier qui a envie, là encore, d'aller plus loin que les 60 plantes que l'on nous propose. Dans le comestible, on a une soixantaine de plantes à peu près. Du point de vue maraîcher, et je m'adresse aussi à un public de professionnels, mais plutôt un professionnel des métiers de bouche, où on va aller chercher des raffinements, des subtilités. Voilà, c'est un peu plus ça qui m'anime, ce truc là
Elissa, tu parles de la question de la vente, et la vente, ça touche aussi à la question du modèle économique. On parle souvent des agriculteurs qui sont en souffrance. On a voté une loi assez malheureuse qui, à mes yeux, est une maladaptation sur la question de l'usage des pesticides, où plutôt que de chercher à mieux favoriser un travail qui soit davantage payé, avec plus de dignité apportée par toute la société, parce que c'est vraiment la base qui permet d'organiser tout le reste, on a préféré réintroduire un pesticide tueur d'abeilles. Comment se passe pour toi, en fait, ta condition d'agriculteur, sachant qu'une de tes spécificités, c'est que tu es un agriculteur urbain? Et donc peut-être que ça a une différence par rapport à des agriculteurs ruraux. Comment tu vois les choses?
Alors tout à fait. Donc pour rebondir sur le début de ta intervention, cette nouvelle loi impacte essentiellement. C'est plus une loi qui est faite pour des grosses entreprises monoplantes, des monocultures. Tout à l'heure je te parlais de la diversité qui me protège un peu, qui nous protège tous en fait, hein. Nos écosystèmes font qu'on est plus protégé. On crée une loi en fait pour aider ceux qui veulent pas forcément nous protéger à se protéger dans leur production. Voilà, c'est ça un peu l'hérésie de cette loi là et encore je parle même pas de l'élevage qui est encore plus une hérésie. Comment on peut dépasser des seuils de... Voilà, moi je trouve ça intolérable, je ne comprends pas comment à l'heure actuelle on puisse faire encore des retours en arrière sur des trucs où on avait avéré, où on a des problématiques avérées de souffrance animale et de comestibilité qui est néfaste, quoi. Voilà, donc on est encore dans une hérésie de notre société. Voilà, moi pour moi, j'en reviens toujours à diversité. Voilà, dans l'humain comme dans la nature.
Donc d'une certaine manière, l'agriculture à petite échelle, avec le refus d'utiliser des intrants ou des pesticides, c'est une sorte de résistance.
C'est une résistance, c'est une résilience. Un système où on peut avoir justement toute cette diversité, il va être beaucoup plus pérenne. Et beaucoup plus sain. Par exemple, un champignon qui vient à se développer dans un truc pas sain, il va générer des spores qui vont rester en place. Donc le but du jeu, si on ne veut pas tomber malade, c'est d'arrêter de créer un terrain propice à la maladie. Voilà. Donc la petite structure est obligée pour survivre de faire de la diversité. Et c'est cette diversité qui va lui permettre de survivre et nous faire survivre.
Alors en parlant de diversité, ça va nous permettre d'intégrer progressivement la question du tout. Un des points qui te tient à cœur, c'est la question de la nature en ville. J'aimerais que tu puisses un peu nous donner ta vision. Ça veut dire quoi nature en ville? Aujourd'hui, ça peut être considéré comme une sorte de slogan marketing d'hommes politiques qui veulent réintroduire du vert. Concrètement, ça se passe comment?
Alors déjà, par rapport à ce que moi je produis, l'idée initiale, tout à l'heure tu as mentionné les forums Miyawaki, la perma, moi je suis très inspiré par les jardins forêts, je suis très inspiré aussi par le fait qu'on est tous des acteurs de ce qu'on mange, de ce qu'on produit. Donc les maraîchers certes produisent une grosse quantité de notre alimentation végétale, mais on peut tous y contribuer en faisant pousser un peu à côté certaines petites plantes qui peuvent complémenter cette alimentation-là. Donc ça c'est le vecteur, l'angle vraiment de mon entreprise, de ma commercialisation, c'est vraiment participons tous à cet effort commun de mieux manger. Après la végétalisation en ville, il y a encore deux autres axes sur lesquels moi je réfléchis. C'est d'une part un aspect social, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, via beaucoup d'associations sur Marseille. On crée non seulement une sensibilisation aux plantes, mais on crée du lien entre les humains. Et je pense qu'on en a besoin. Donc voilà, on articule pas mal de connexions grâce aux plantes. Que ce soit avec des publics adultes, comme avec des très jeunes publics. Voilà, donc ça c'est très chouette. L'année dernière, j'ai animé un atelier dans une maternelle. C'était un moment très intéressant. Je pense que les minots, ça leur a fait du bien, un peu. Et en tout cas, ils repartaient toujours avec l'idée de planter une graine. N'importe où. C'est ce que je ne cesse de leur dire. Vous prenez une graine, vous l'avez mangée à la cantine, vous la plantez n'importe où. Et le dernier point, en fait, sur lequel je suis assez sensible, c'est le réchauffement climatique. Et donc, le dérèglement climatique. Et en ce sens, une végétalisation urbaine permettrait un rafraîchissement des températures et donc une utilisation moindre de climatisation, et etc.
Pour rebondir sur tes deux points, sur la question du lien social, les ateliers de la forêt des possibles ont totalement vocation à servir à ça. Et justement, on distribue des graines à la fin. Une fois qu'on a fait l'atelier, de dire ce qu'on t'invite, c'est que si jamais ça t'a plu, tu peux la donner à quelqu'un pour le faire à son tour et la planter ensemble, cette graine-là. Donc ça, on a vraiment réalisé que l'utilisation de l'image d'un arbre et d'une forêt, ça parlait absolument à tout le monde. Et donc là, sur le plan plus de relations humaines, ça permet aussi, via cette image, de pouvoir créer parfois des interconnexions très profondes. La question des racines, par exemple, c'est un mot qui a toute sa définition dans l'ordre du végétal, mais dans nous, en tant qu'êtres humains, la question de nos racines, qui sont plurielles elles aussi, ça éveille un imaginaire énorme, et ça permet vraiment de faire le lien, et puis on dépasse la racine. Ensuite on va vers le tronc, puis ensuite les branches et les fruits, et donc les choses concrètes qu'on peut faire ensemble. Donc ça fait le lien là-dessus. Et alors sur ton dernier point, tu parlais de la question du rafraîchissement par rapport au changement climatique. On a eu un très très gros coup de chaud hier à Marseille, au sens propre comme au sens figuré. Coup de chaud parce qu'on a vraiment eu très peur, et coup de chaud aussi parce que la ville a brûlé littéralement, avec une dizaine de maisons qui ont littéralement pris feu et des centaines d'hectares qui ont brûlé au nord de la ville, et qui questionnent la question de l'eau, pour revenir dessus, d'un territoire qui est extrêmement sec, lié au changement climatique, à l'immense canicule qu'on vient d'avoir, et puis ensuite les vents qui n'ont absolument pas aidé. Et parfois même qui ont pu faire en sorte que le feu puisse dépasser les autoroutes pour aller de l'autre côté de l'autoroute. Comment tu vois cette question de l'eau à Marseille? C'est quand même une ville assez particulière. L'eau ici vient du canal de la Durance. Je ne sais pas à quel point on se rend compte qu'on est complètement dépendant et dépendante d'un approvisionnement qui arrive d'ailleurs, qui a permis à une ville de 80 000 personnes de passer à 890 000. Et là où les sources précédentes, parce que la ville existait avant le canal, ont été largement polluées, certaines qui ne coulent plus autant qu'avant. Comment tu vois ça et comment tu le vis au quotidien, cette question de l'eau?
C'est vrai que nous, à Marseille, en tant qu'agriculteurs en tout cas, la plupart dépendons de la SEM, c'est-à-dire de la Société des Eaux de Marseille. On ne dépend pas, comme beaucoup d'agriculteurs avoisinants en Marseille, du canal. Donc on consomme une partie de l'eau potable pour alimenter nos plantes. Donc, si on n'a plus d'eau, on n'a plus de plantes. Si on n'a plus de plantes, on ne mange plus rien. C'est une équation très simple. Notre alimentation à tous est corrélée à 100% au végétal. Que ce soit même les carnivores à 200%, pour nourrir un bœuf ou un œuf, il faut du végétal. Donc végétal veut dire inévitablement de l'eau. La réflexion qui doit nous animer maintenant, c'est quel végétal, quels végétaux doit-on sélectionner pour prévenir nos lendemains. Il y a des végétaux qui sont plus adaptés à notre futur, notamment sur certains fruitiers, qui nous demandent beaucoup moins d'eau que d'autres. Peut-être des plantes plus résilientes là encore, peut-être un peu plus de vivaces, des plantes qui, donc vivaces par rapport à une plante annuelle, c'est une plante qui dure plusieurs années. Là encore, on peut arriver à avoir des dépenses énergétiques moindres. En eau, du moins. Je pense qu'il y a beaucoup de techniques aussi qui nous permettraient de moins consommer d'eau, que ce soit dans l'arrosage d'une part, mais aussi là encore, comme je te le disais tout à l'heure, sur ce réchauffement de l'atmosphère en été. Si on avait plus de végétaux en place, ben, ça sous-entendrait qu'il y ait moins de béton. S'il y a moins de béton, ben, ça veut dire, s'il y a moins de goudron, ben, ça veut dire que dessous, il y a peut-être quelque chose de perméable qui pourrait avoir un peu d'eau et donc faire repousser des végétaux et donc nous donner des petites barrières vertes. Quoi, voilà, c'est un peu aussi cette vision-là que j'en ai. On a trop de goudron dans nos grandes villes. C'est pas un problème, les problèmes d'inondation, les problèmes de sur-sécheresse, c'est les problèmes de ville aussi.
Là, souvent, on voit le vieux port marseillais complètement dépassé par les eaux quand il pleut, avec finalement cette espèce d'effet cuvette où le goudron fait redescendre l'eau de toutes les collines sur le vieux port qui finit souvent inondé. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le fait de sortir le goudron et de pouvoir réinstaurer de la nature, et puis aussi avec tous les réseaux des racines qui permettent de fixer l'eau dans le sol, quelles pourraient être les incidences très concrètes?
D'une part, ce poumon vert qui pourrait être mis en place à certains endroits, donc dans des zones d'ombrage. Une zone d'ombrage permet au sol de moins transpirer. Donc s'il y a moins de transpiration, bah, il y a toujours un peu plus d'eau en bas. Ce qui fait vivre un sol, c'est l'eau d'une certaine manière, mais c'est parce que l'eau permet au vert de terre de bosser.
Et on n'avait pas encore parlé des vers de terre, c'est incroyable ça quand même.
Et oui, parce que voilà, on en revient toujours à ce truc-là de c'est un tout. Un tout pour tout. Ton vers de terre, c'est celui qui fait le job à ta place. C'est celui qui fait que nos terres vivent et nos terres. Voilà. Et on en revient encore aux pesticides. Si on bute des abeilles, on bute aussi des vers de terre. C'est-à-dire qu'on bute tous ceux qui participent activement à la vie. Et ça, c'est triste. Mais donc, voilà. Une plante avec un système racinaire profond, bah, va créer des canaux dans lesquels une pluie va permettre à l'eau de... Donc, ces canaux vont permettre à l'eau de s'infiltrer dès lors qu'il y a une pluie. Donc, il y aura beaucoup moins d'inondations. Tu auras des sols beaucoup plus irrigués, donc beaucoup plus végétalisable ou végétalisé, et cette chaleur qui s'accroît dans le goudron, qui se stocke dans cette masse-là, et bien elle sera diluée par la terre.
Quand on t'écoute, on voit en fait tous les co-bénéfices de cette façon de vivre pour nous-mêmes, pour une ville et pour la société, et pourtant parfois il y a beaucoup de personnes qui ont des freins, qui voient des pertes, de se dire mais regardez, en fait, si on met plus de pesticides, eh bien, enfin, si on va avoir des attaques. Si jamais on fait sauter le goudron, ma voiture va plus pouvoir rouler. Donc il y a tout un enjeu autour des imaginaires. Il y a un enjeu autour de la désirabilité, un enjeu autour du fait de se rendre compte que bah oui, manger mieux, être moins malade, avoir moins chaud, ne pas, être moins à risque et vulnérable des incendies, des inondations.
Continuer à manger.
Ouais, ça fait quand même beaucoup. Hein. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent se rendent compte en fait à quel point ça fait beaucoup de choses sur lesquelles on est aujourd'hui vulnérable. Parce qu'on pousse les limites jusqu'à ce que, bah, littéralement, on puisse prendre un incendie dans la figure. Et encore, on a la chance d'habiter juste à côté de la mer et donc d'avoir des canadaires qui étaient spécialisés juste sur ça, en ayant des tout petits trajets à faire. Alors que si ça avait été plus loin dans les terres, on ne sait pas comment ça aurait pu se passer. Donc, si je fais tout ça, c'est que je t'amène sur notre dernière question, Michael, sur la question de la désirabilité. Et la désirabilité, donc aussi une question de promouvoir des récits et des imaginaires et nous donner envie d'aller dans ce monde-là. Et donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de fermer les yeux. De fermer les yeux et de t'imaginer que nous sommes en 2035. Et en 2035, nous avons réussi. Voilà, c'est la première chose qu'il y a à savoir, c'est que nous avons réussi. Et j'aimerais que tu puisses sentir cette joie que c'est d'avoir réussi et puis te poser la question de savoir ça veut dire quoi réussir. Parce que je te poserai la question après. Et donc de cette joie du succès d'avoir réussi la transition à Marseille et ailleurs, eh bien j'aimerais que tu te concentres sur tes sens. Et donc tes sens, que tu fasses particulièrement attention au goût, parce que c'est quand même un peu au cœur de l'assiette de ce que tu nous proposes de pouvoir, enfin que tu nous présentes aujourd'hui, mais de pouvoir manger à travers toutes ces plantes qui grandissent, et aussi au toucher, puisque c'est quand même aussi ton travail du quotidien. Et puis au-delà du toucher, il y a aussi les odeurs, parce que j'imagine qu'il y a tout un tas d'odeurs avec lesquelles tu es au quotidien, et puis aussi les sons. Peut-être qu'on entend moins de voitures, je n'en sais rien. Et donc, une fois que tu as ces sentiments-là, j'aimerais que tu puisses prendre ton vélo depuis là où tu travailles aujourd'hui à la Bételine et que tu descendes vers le Vieux-Port de Marseille et que tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Et une fois que tu as la représentation dans ta tête, eh bien j'aimerais que tu nous donnes envie. Nous sommes en 2035, nous avons réussi et...
Donc on prend son vélo, on descend doucement. Ce que je vois, c'est qui s'alternent sur ma droite, sur ma gauche, des petites zones où on a réussi à enlever du goudron et où commencent à pousser des mini-forêts comestibles, des mini-forêts, des petits poumons verts un peu partout. Je vois les enfants qui viennent s'amuser au pied de ces arbres, qui viennent cueillir ou sentir une petite fleur... Et on se rapproche de plus en plus du centre-ville, et on est en plein été, et il fait un peu meilleur que que 10 ans avant. Et les gens finalement se rendent compte qu'en effet, la nature, ben, c'est leur allié, et non pas leur ennemi, et qu'il faut faire avec, et faire bien avec.
Et alors qu'est-ce que ça t'a donné comme sentiment ?
De quoi d'avoir réussi.
Bah oui, il faut quand même avoir envie d'y aller. Hein.
Bah, que j'étais content d'avoir participé à cet effort pédagogique, d'avoir pu aider à certaines personnes à être sensibles, un peu plus sensibles, moins... sortir un peu des visions qu'on nous assène et se rendre compte par lui-même. Parce que là, comme tu disais, le toucher, le ressenti, tous les sentiments qu'on peut avoir, qu'on peut exacerber grâce à ce contact avec les plantes, ça peut éveiller des choses. C'est pas une image derrière un écran, c'est pas un redit par des médias ou par des politiques. C'est du vrai, c'est du vivant, et ça peut toucher. Et je suis content que ça ait touché finalement.
Et alors ce monde que tu nous proposes pour 2035, il peut commencer dès demain avec ta pépinière. Comment est-ce qu'on fait pour celles et ceux qui nous écoutent pour te retrouver, pour venir voir, pour amener des enfants, pour venir s'approvisionner tu peux donner les informations très concrètes en cette fin d'émission pour que ce monde-là advienne le plus vite possible.
Bien sûr. Bah, donc, nous, on est au domaine de la Besteline. On est en pleine installation pour la plupart. Moi, je suis déjà installé, je produis, je vends. Je suis ouvert tous les jours, sauf tous les après-midi, sauf le mardi. Et j'ouvre aussi le samedi matin parce qu'on fait une vente à la ferme avec Terre de Mars. Voilà. Et donc, progressivement, les autres acteurs vont s'installer d'ici la fin de l'année. Vous pourrez retrouver très rapidement donc, ce que je vous annonçais tout à l'heure, la ferme Pédago, la Chevrière, Casa Consola qui va envoyer une antenne pour planter des vignes là-bas aussi, commencera d'ici la fin de l'année. Donc là, il va falloir un peu attendre pour avoir les vignes de Casa. On a notre maraîcher aussi qui est déjà en place, Vincent Duvauchel. Voilà, les filles de Ziggy qui font leurs fleurs coupées sont déjà là aussi. Elle. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver. Donc, comme je vous dis, moi je suis ouvert tous les après-midi. Le samedi matin, vente à la ferme. Et sûrement qu'à l'automne, on fera une deuxième date de vente à la ferme. Voilà.
Donc, t'as un petit Instagram pour qu'on
J'ai un petit
si
Instagram, j'ai un petit Facebook. Voilà, c'est Pépinière de demain. Sur Instagram, c'est tout accroché. Sur Facebook, j'ai pu mettre mon apostrophe, donc c'est Pépin, apostrophe hier, de demain. Et voilà, j'essaye d'être assez actif, bien que ça me prenne beaucoup de temps, j'essaye.
Et ben, c'était passionnant. Merci Michael. Merci aussi Elissa pour avoir posé des questions plus pointues que les miennes pour ce que tu... C'est quand même un sujet que tu maîtrises puisque vous étiez rencontrés tous les deux en formation il y a 2 ans. Merci aussi à Claire et à Mathieu qui sont en régie et qui ont enregistré cette émission.
Merci à toi Marin, merci à vous.
Et on se donne rendez-vous très bientôt dans l'émission de La Forêt des Possibles qui a finalement une vocation assez similaire mais sur le plan des relations humaines que ce que tu nous as présenté tout au long de cette émission.
Merci Mika, merci à tous.
Bonne soirée, à bientôt.